Bonjour à vous tous. C'est une joie de se retrouver, c'est une joie de vous retrouver. Pourquoi aujourd'hui ce serait de cet impératif que le Seigneur donne en Matthieu 28, 19, 20. Allez donc, c'est un impératif, faites des disciples de toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant toutes les choses, toutes, on en a dit des choses du Seigneur, que je vous ai dites. Il y aura peut-être, laissons la bonté de Dieu nous envahir de toute manière, mais d'abord, je pense que ce serait bien de laisser une place à la prière et de demander au Seigneur, Seigneur, purifie mon cœur, purifie ma conscience, purifie mon esprit. Sanctifie nos oreilles pour entendre et recevoir ce que tu as donné par ton esprit aujourd'hui, parce que si ce n'est toi, Seigneur, qui nous parle, dans ta bonté, comme dans ta sévérité, nous l'avons chanté. Comment subsisterai-je? Comment pourrais-je tenir dans un Dieu, devant un Dieu aussi grand que toi? Mais voilà, par-dessus tout, nous l'avons dit dans une prière, tu nous accueilles, tu nous aimes, et cet amour couvre une multitude de péchés, comme il est dit. Et c'est dans ce sentiment que nous sommes là devant toi, Seigneur, sans crainte, simplement à te demander, parle dans nos cœurs, dans nos consciences aussi. Fais-nous du bien, fortifie-nous, encourage-nous à fermer nos pas et glorifie ton nom par notre conduite, par nos pensées et dans nos marches dans ce bas monde. Te demandons ces grâces, Seigneur, dans le bon nom de Jésus. Amen. Faire des disciples de Jésus-Christ, pour le faire, il faut d'abord l'être soi-même. Et cette mission est pour chacun de nous, pour chaque enfant de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'un vrai disciple ? Matthieu 16, 24 dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce soi-même, qu'il prenne sa croix et me suive. Un autre verset en Luc 14, 26 et 27, quiconque ne porte pas sa croix après moi, ne vient pas après moi, ne peut être mon disciple. Alors, d'habitude, nous croyons que porter sa croix, ça veut dire j'ai une lourde croix, j'ai un gros problème, j'ai une épreuve insupportable. Mais pas ça du tout. Celui que le Seigneur demande, c'est de manifester que nous sommes crucifiés avec lui. Porter notre croix, c'est montrer que nous allons pour être crucifiés. Est-ce que je suis crucifié avec le Seigneur? Au fait, un disciple est enseigné par un maître. Il prend l'engagement de le suivre avec humilité, avec soin, l'enseignement du maître. Certaines déclarations paraîtront peut-être difficiles à accepter, mes amis. Mais prenons-les comme étant une déclaration que le Seigneur nous a conservée dans sa parole et qui est pour moi et qui est pour chacun de nous. Nous n'oublierons pas les disciples de Maïs dont il a été question la semaine dernière. Nous en dirons peut-être un mot tout à l'heure. Un autre appel à entendre, comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru, Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment entendront-ils parler sans quelqu'un qui prêche? Et comment prêcheront-ils s'ils ne sont pas envoyés? C'est Romains 10, versets 14 et 15 qui nous dit cela. Sans doute, il y aura des obstacles à prévoir. Quels sont-ils ces obstacles à surmonter? L'incrédulité, l'indifférence. Alors, je donne quelques citations pour nous aider à faire face à ces témoignages que nous avons à rendre dans ce monde. Parce que nous sommes des témoins de la mort et de l'amour de Christ. André Frossard, je ne sais pas si vous vous souvenez de qui il était, c'était un journaliste français qui disait ceci. Un non-croyant trouve tout naturel d'être sur une boule de feu recouverte d'une mince couche de boue séchée, entraînée à une vitesse supersonique et entourée de milliers de lampions d'origine inconnue. Jean d'Ormesson, vous savez que c'était un académicien français, a dit ceci, « Il n'y a pas d'autre romancier, pas d'autre musicien, d'artiste que Dieu. On ne saurait citer tous ceux qui se sont approchés de Dieu à travers la contemplation ou l'étude de la nature. Quand la beauté d'une mélodie me bouleverse, je dis merci au compositeur, certes, mais plus encore à celui qui a rendu cet homme capable d'écrire cela et qui me donne la capacité de l'entendre. Allons, l'existence de la beauté peut-elle s'expliquer si tout n'est que le fruit du hasard? Michel Delpech, un chanteur, faut-il vous le rappeler, a dit ceci, « Dieu ne nous envoie pas d'épreuves, mais quand elles surviennent, il les traverse avec nous, à bien plus grand nombre que nous pouvons imaginer, mes amis, font référence à ce Dieu créateur, à ce Dieu sauveur, à ce Dieu d'amour. » Et Victor Hugo de déclarer, « On résiste à l'invasion des armées, on ne résiste pas à l'invasion des idées. » Alors, j'ai trouvé récemment une citation d'un commentaire sur ce qu'un proverbe nous dit. « Va vers la fourmi paresseuse. Regarde ses voies et sois sage. Elle n'a ni chef, ni surveillant, ni gouverneur. Elle prépare en été son pain. Elle amasse pendant la moisson sa nourriture. » Proverbe 6, versets 6 et 8. Et le commentaire, celui qui a dit cela, observons la nature, les fourmis et les pucerons, chose que je n'avais jamais vue. L'activité incessante du fourmilière est fascinante. Avez-vous remarqué aussi les fourmis éleveuses sur un rosier, par exemple? Elles élèvent des pucerons, les nourrissent et les protègent. Elles en obtiennent leur nourriture. En effet, les pucerons se nourrissent de sève riche en sucre et rejettent un liquide translucide et sucré, le miella, qu'on ne sait pas, dont les fourmis sont friandes. Les fourmis et les pucerons ont fait une sorte d'arrangement. Les fourmis logent les pucerons et les protègent. Et en retour, les pucerons nourrissent les fourmis. Parfois, les fourmis construisent même avec des morceaux de plantes fibreuses une espèce d'étable qui sert d'abri aux pucerons. Quel exemple de coopération nous donnent ces insectes? Chacun est utile à l'autre et à l'ensemble. Nous sommes utiles aux uns et aux autres. Par contre, il se trouve dans l'histoire de nombreux opposants à la vérité. Karl Marx, par exemple. Le communisme abolit les vérités éternelles, il abolit les religions, la morale, au lieu d'en renouveler la forme. Et Proust, un écrivain français, aurait dit « Le seul véritable voyage n'est pas d'aller vers de nouveaux paysages, et pourtant on aime bien les voyages, mais d'avoir de nouveaux yeux. Si vous doutez encore de l'existence de Dieu ou de sa capacité s'il existe, à se préoccuper des créatures insignifiantes que nous pouvons représenter sur notre minuscule planète, je souhaite de tout cœur non que vous ayez de nouveaux yeux, mais que vous ouvriez ce que Dieu vous a donné. Car je suis convaincu que la nature est elle seule, dès que l'on se penche pour la voir et l'entendre, porte l'épreuve quasi aveuglante de toute sagesse et de la bonté du Créateur. Comment le hasard a-t-il pu imaginer tant de beauté, tant d'éléments interdépendants, dont l'absence d'un seul signifierait le néant? Réfléchissez un instant. Si ce n'est pour se persuader soi-même et faire taire sa conscience, qui peut honnêtement prétendre que l'univers s'est fait à partir de rien et sans raison? Mais lorsque l'on cesse de fermer les yeux, le plus extraordinaire voyage conduit à rencontrer de l'auteur, de l'architecte, de l'artiste, tout ce qui se voit, tout ce que voient nos yeux, de ce qui nous émerveille et de tout ce que nos cœurs aiment. Et ce n'est qu'un commencement. À propos de l'incrédulité, ce n'est pas l'ignorance ni l'incapacité de croire, mais souvent le désir de s'affranchir du souverain maître, le refus de lui abandonner sa vie. Au fait, Dieu ne se voile que pour nous permettre d'exister. Souvenez-vous les fois où le Seigneur se présente à un serviteur et que ce soit un Daniel, que ce soit un Moïse, il se trouvait comme mort dans la présence de Dieu. L'évangéliste Spurgeon disait « Il est merveilleux de voir comment un texte de la Bible dur comme une pierre émet des étincelles lorsqu'il est frappé de l'acier de la prière. » La sollicitude de la grâce de Dieu s'étend largement encore, même durant les périodes les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Des citations et quelques réflexions de contemporains en sont autant de preuves. Et pour la santé physique, nous alimentons, nous faisons de l'exercice, nous faisons des exercices corporels. Cela ne serait-il pas vrai de notre santé spirituelle? D'autant plus sérieux pour tout disciple au service du Maître de l'univers, notre bien-aimé Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Ce que notre Dieu demande, il le donne. Ce n'est jamais au-dessus de nos forces. Et il nous en rend capables dans la mesure même où nous en acceptons la charge. Mais d'abord, il faut rencontrer Dieu. Comment ? Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père et moi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Si nous voulons, si nous aimons rencontrer Dieu, sachez, les amis, c'est la parole de Dieu qui le dit, que Dieu va se manifester. Il y en a autant de preuves. Si quelqu'un me recherche, il me rencontrera, parce que je vais manifester à lui. La première démarche, c'est de présenter l'Évangile. C'est la clé pour devenir un enfant de Dieu. Alors j'ai trouvé dans une publication de Espoir et Vie, une Bible qui était faite par des amis croyants. Un canevas que je vous proposerai enfin, si vous voulez bien. J'ai fait des photocopies et ceux qui le souhaitent pourront les prendre. Ça peut nous aider à comment faire, comment dire, comment présenter le Seigneur. Et c'est en trois points que je vous cite rapidement. Admettre devant Dieu que l'on est pécheur, parce que Dieu a dit tout son péché. Deuxièmement, croire que Jésus-Christ est le sauveur du monde, c'est Jean 3,16. Et confesser ses péchés à Jésus-Christ en lui demandant pardon. Ça paraît simple. Et pourtant, il faut qu'on le fasse avec nos mots. Et à l'égard de tous ceux que nous rencontrons, si possible, demandons au Seigneur de nous donner des occasions pour montrer, pour manifester que nous lui appartenons, que nous sommes à lui. Donc ce sont trois étapes à réaliser, une prière pour confirmer que nous avons bien reçu le salut. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Je vous laisse lire la suite par un texte que je vous laisserai parce que j'en ai fait quelques impressions. Y a-t-il un autre moyen ? Psaume 49, versets 7 et 8. Un homme ne pourra en aucune manière racheter son frère ni donner à Dieu sa rançon, car précieux est le rachat de son âme et il faut qu'il y renonce à jamais. Comme notre Seigneur est précis. Alors, quelle est la suite du plan divin ? Nous transformer en image de Christ. Je suis l'argile, il est le potier. Le Seigneur nous transforme tous les jours. Mes amis, venez encore un peu de patience avec moi parce que le Seigneur n'a pas fini de me transformer. Lisons Galates 4, 19. C'est le projet de l'apôtre Paul. Mes enfants, pour l'enfantement desquels je travaille de nouveau, jusqu'à ce que Christ ait été formé en vous. Quel travail de l'apôtre, quel travail de notre Dieu, parce qu'il est dit en Philippiens, mon Père travaille et je travaille jusqu'à maintenant. Notre Seigneur est à l'œuvre pour nous transformer à son image. À son image. Il était question d'épreuves permises par le Seigneur et dont aucun disciple n'échappe. L'épreuve, parfois une discipline dont parle le livre des Hébreux. Une épreuve aussi où il est question d'un creuset, donc exposé au feu de la fineur. Pourquoi le fait-il ? Pour séparer les impuretés et en extraire le métal noble. Ça a déjà peut-être été dit, mais c'est bon de le rappeler que l'épreuve du feu, quand est-ce qu'elle s'arrête ? Lorsque le fondeur voit son image dans le métal épuré. Le Seigneur voit son image en moi. Le voit-il ? Le voit-il souvent ? Le voit-il toujours ? Des conséquences pour les disciples de Jésus. C'est par beaucoup de souffrance qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Acte 14, verset 22. La vie chrétienne est semée d'épreuves et de tentations de toutes sortes, mais le Seigneur promet de nous accompagner. Michel Delpech l'a expérimenté. Et de nous en délivrer. Permise par le Seigneur, elle s'accompagne d'une promesse. Et rappelons-le, on le dit souvent à Corinthiens 10. Aucune tentation, aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été à la mesure de l'homme. Et Dieu est fidèle, qui ne permettra pas que nous soyons éprouvés, que nous soyons tentés au-delà de ce que nous pouvons supporter. Mais avec la tentation, il fera l'issue afin que nous puissions la supporter. Quelle fidélité, notre Dieu. En outre, Romains 8, 18, j'estime en effet que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire à venir qui doit nous être révélée. Elles ne sont pas dignes. Quelque part, vous aussi, sans doute, avez-vous expérimenté cette douleur, quelquefois insupportable, et dit à notre Dieu, est-ce que, Seigneur, tu ne dépasses pas la mesure, s'il te plaît? On nous donne une échelle d'appréciation entre 1 et 10, vous avez mal comment? Entre 1 et 10, 6, 7, moins, plus. Il y a une autre promesse, qui craint Dieu sort de tout. Bien souvent, cette épreuve-là, insupportable, Seigneur, je crie à toi et tu me réponds. Très souvent, quand tu dis au Seigneur, écoute, tu dis, Seigneur, est-ce que tu n'as pas dépassé une certaine limite? Ma prière est entendue et le Seigneur répond. Et le Seigneur soulage. Quelque part, je me dis, je réfléchis un moment, c'est une partie des souffrances qui reste à souffrir pour peut-être rencontrer mon Seigneur dans la souffrance qu'il a endurée pour moi à Gethsémané et à Golgotha. Il me semble que c'est un reste de souffrance que le Seigneur me permet de rencontrer pour me permettre de mesurer un peu quelles ont été les siennes. Et jamais je ne pourrai entrer dans la profondeur de ce qu'a enduré mon Seigneur pour expier, pour effacer mes fautes de devant le Dieu juste et saint. Il s'agit de croire Dieu. C'est la foi, et le fondement. C'est une assurance. Je sais que je suis sauvé. Je le sais. Vous entendez des personnes qui disent « Je crois que je suis sauvé. » C'est plus que ça. Le fondement où vous êtes sauvé par la grâce, c'est la grâce de Dieu qui m'a sauvé, par le moyen de la foi. C'est le fondement. Sinon, vous, cela, mes amis, si le Seigneur nous a fait ce don de la foi, une conviction aussi, des choses qu'on ne voit pas. C'est Hébreux 11 qui nous le dit. C'est l'assurance des choses qu'on espère et c'est la conviction de celles qu'on ne voit pas. Mais la folie, la prédication de l'évangile, c'est une folie pour les gens. On a dit aussi, Paul, tu déraisonnes. Des rois ont dit à Paul qui rendait témoignage à la fin du livre des Actes, tu es fou. On a dit ça aussi à Monseigneur. Ses frères ont dit, il est fou. Ne nous étonnons pas, s'ils ont dit ces choses au bois sec, que sera-t-il au bois vert, que sera-t-il fait au bois sec, dit la Bible. Une croyance est absolument différente. On peut arriver qu'on la perde. Jamais la foi. On ne peut pas perdre la foi. On ne peut pas perdre la vie éternelle. Qui croit au Fils à la vie éternelle, il ne vient pas en jugement, il est passé de la mort à la vie. S'il a la vie éternelle, comment va-t-il la perdre s'il est éternel? Réfléchissons un instant. Il y a des personnes, et même des pasteurs, qui vous diront on peut perdre la vie éternelle. Je ne comprends pas. Parce que si le Seigneur me donne la vie éternelle, je l'ai. Pour l'éternité. Acte 17, 30, 31. Dieu donc ayant passé par-dessus le temps de l'ignorance, et j'aime bien la traduction qui dit ici, ordonne maintenant, il ordonne maintenant qu'à tous, ils se repentent. Parce qu'il a fixé un jour auquel il doit juger en justice la terre habitée, par l'homme qu'il a destiné à cela, en ayant donné une preuve à tous, en le ressuscitant d'entre les morts. La résurrection du Seigneur annonce un jugement à venir qui sera inexorable. Galates 6:8, celui qui sème pour sa propre chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. On a encore du boulot, mes chers amis. Travaillez à votre propre salut. C'est un autre sujet qui méritait d'être approfondi. Alors, un avertissement. Matthieu 12, 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. J'ai trouvé ça dur à entendre. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est la parole de Dieu. Notre Dieu est souverain. Je l'accepte. Et je m'incline. Connaissant donc combien le Seigneur doit être craint, nous persuadons les hommes. Combien il y en a qui vous disent, tu sais, l'évangile dans nos régions, ça a été souvent prêché, alors laissons faire le Seigneur. Il pardonnera, il donnera la capacité de quelqu'un de croire en son temps. C'est pas ce que le Seigneur dit. C'est pas ce que le Seigneur me dit. Insister en temps et hors de temps. Saisissons l'occasion quand les jours sont mauvais. Ce sont des versets que nous connaissons bien. Est-ce qu'il faut les négliger? Nous aimons les créatures que nous rencontrons. Est-ce qu'elles sont sauvées ou pas? Je le suis, je le sais. Mes enfants, mes petits-enfants, voire mes arrière-petits-enfants, est-ce qu'ils le sont? Je ne sais pas. Et ma prière instante, c'est que nous puissions nous retrouver un jour en os de l'agneau. Quelque chose de grandiose. Nous ne pouvons pas imaginer. Mais je voudrais tant que tous ceux que je rencontre et qui s'assiedent à notre table souvent pour des occasions ou des autres, ils soient avec moi dans le paradis de Dieu. Et si le juste est sauvé difficilement, où paraîtra l'impie et le pécheur? Nous dit encore Matthieu 24, 12. Et parce que l'iniquité prévaudra, toujours en Matthieu 24, l'amour de plusieurs sera refroidi. S'il te plaît, Seigneur, permets pas que mon amour refroidisse, mais que je tienne jusqu'au bout les engagements pris avec toi, d'être des disciples et d'être à ton service par ta grâce et par les moyens que tu vas me donner et l'humilité dont j'ai tellement besoin pour être un serviteur utile au maître, utile à notre maître. Deutéronome 30, vaut-il pas la peine de le rappeler? Voici, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Choisis la vie. Est-ce que c'est un impératif ou c'est un conseil d'amour, d'ami de notre Dieu? Et si quelqu'un se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui, nous dit Hébreux 10, 38. Et nous avons des exemples dans la Bible. Un fidèle serviteur de l'apôtre Paul, Démas, il s'appelle le Démas. L'apôtre dit à un moment donné, Démas m'a abandonné. Le Seigneur ne prend pas plaisir à ceux qui l'abandonnent. Vous savez pourquoi Démas a abandonné l'apôtre? Il a aimé le présent siècle. Mais qu'est-ce qu'il y a d'agréable dans le présent siècle? Franchement, beaucoup de misère, beaucoup de besoins insatisfaits, des guerres, des divisions, de la violence. Et d'autre part, combien de choses aussi utiles et aussi légitimes les unes que les autres. Le Seigneur nous a créés pour vivre sur cette terre. Premier épisode. Permettez-moi cette expression. D'autres avertissements, cette période annoncée par l'apôtre Paul pour le dernier temps, ne semble plus très lointaine. Entre ces deux extrêmes, rappelons-nous le déluge que Dieu a décidé pour engloutir une humanité coupable, dont la méchanceté était devenue tellement grande qu'il n'y avait plus d'autre solution. Le déluge vint et les fit tous périr. Une autre occasion que vous connaissez très bien, Sodome et Gomorre. Et cependant, tout semble aller normalement. On mangeait, on buvait, on bâtissait, jusqu'au jour où le déluge vint, jusqu'au jour où Lot sortit de Sodome. Et ce qui est caractéristique, si vous lisez ce que le Seigneur dit en Luc 17, il est indiqué que on donnait en mariage, ça n'existe plus. Ce n'est plus dans la période de Lot. Et le Seigneur a dû intervenir, mais auparavant, il fallait épargner un juste. Il nous est parlé dans les épîtres du juste Lot, qui vivait parmi ces gens dévoyés. Il tourmentait son âme. Et le Seigneur a vu en Lot un juste. C'est mis dans la Bible. Le juste Lot. 2 Pierre 2, verset 7. Alors, deux styles de vie, ou bien regretter, comme les Israélites ont regretté la vie en Égypte, une vie d'esclavage, comme le fit une catégorie de nostalgiques dont il nous est dit que, par ailleurs, qu'il s'agissait d'un ramassis du peuple qui s'éprit de convoitise, nombre 11, 4, ou plutôt comme Moïse, qui refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon et de vivre dans l'opprobre. Choisissant d'être dans l'affliction avec le peuple de Dieu, plutôt que de jouir pour un temps des délices du péché. C'est mis dans la Bible. Parce qu'il y a des délices au péché. Moïse estime à l'opprobre du Christ un plus grand trésor que les richesses de l'Égypte. Il n'y a que ces deux alternatives, mais il faudra traverser un désert terrible, à certains égards, avant d'atteindre la terre promise. Et pour nous, c'est un héritage céleste. Être pour toujours avec le Seigneur. Il n'est pas étonnant de trouver l'appellation esclave du Seigneur de la part de ceux qui ont fait le bon choix, comme Marie qui ont choisi la bonne part. Qu'il ne lui sera pas ôté. Bien que nous ne soyons pas tous appelés à être des Moïse ou des Paul, des apôtres Paul, ces exemples sont suffisamment éloquents par eux-mêmes. C'est pourquoi l'avertissement d'Apocalypse 22, 11 interpelle. Que celui qui est souillé se souille encore. Que celui qui est sanctifié se sanctifie encore. Et en conclusion, une citation de Philippiens nous dit ceci, « Ainsi je connaîtrai, en étant de ses disciples, Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. » D'une part, nous avons une puissance à notre disposition. La puissance de la résurrection de Jésus-Christ nous entraîne à tenir bon jusqu'à la fin. Parce qu'il y aura des souffrances à la clé. La communion de ces souffrances. Quelle faveur le Seigneur nous fait, finalement. Goûter un petit peu les souffrances qui n'ont duré pour moi. Parce que lui a enduré les principales souffrances à la croix. Comment imiter la bravoure d'un Josué, d'un Gédéon, d'un Daniel dans la fosse lion? Ou d'un David, vainqueur de Goliath, pour nous, chers amis, prêchons Christ crucifié. Le scandale de la croix. C'est pas étonnant, on ne nous aime pas. Nous parlons d'un scandale. Et nous nourrissons d'un scandale. Mais c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Bientôt, très bientôt, notre destinée est d'être intégrée dans une union parfaite avec Dieu, selon 1 Corinthiens 15, 28, afin que Dieu soit tout et en tous. Voilà notre destinée. à méditer. Mettons toute notre confiance en notre Seigneur Jésus-Christ, il peut tout. Il nous assure que prochainement, nous le connaîtrons tel qu'il est, au milieu des splendeurs de son beau ciel. Et il vient très bientôt. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.